Et nous continuons nos méditations dans l'épître de Paul aux Galates. Alors là, c'est un peu particulier. On va revenir sur un passage, sur quelques versets, et je vais ajouter un second texte. Donc, je reviens sur Galates, chapitre, donc vous l'avez devant vos yeux, chapitre 4, versets des 13 à 4. J'avais laissé ça la semaine passée. Et donc, Paul parle de l'occasion qu'il a eue de prêcher l'évangile dans cette région de Galatie. Et il raconte comment ça s'est fait. Alors je vais lire Galates 4, 13 à 4. Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus lui-même. Où donc est l'expression de, donc ça c'est la fin, et le verset 15, où donc est l'expression de votre bonheur, car je vous rends ce témoignage, que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché des yeux pour me les donner. Donc voilà les circonstances de l'annonce de l'Évangile chez les Galates, et Paul a dit que voilà, ils ont bien changé depuis. Et donc il explique ça en passant un temps lorsqu'il dit aux Galates pour les ramener à l'Évangile, dont ils se sont un peu égarés. Mais donc, un second passage, et qu'on va suivre, c'est en 2 Corinthiens, chapitre 12, cette fois. Donc, c'est un petit peu plus avant dans vos Bibles. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 et suivant. Je vais même lire à partir du verset 1 de 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Il faut se glorifier, dit-il. Dit-on, cela n'est pas bon en vérité. J'en reviendrai quand même, néanmoins, à des visions que j'ai eues, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, parle de lui, qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme était dans son corps ou hors de son corps, et bien fut enlevé dans le paradis. Qu'il entendit des paroles inexprimables, ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. À cause de l'excellence de ces révélations, donc reçues, par moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, trois fois. Et il m'a dit finalement, ma grâce te suffit, ma grâce est suffisante, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. Pour Christ, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole, puissance de vie pour aujourd'hui. Amen. Alors, nous n'aimons pas être faibles. Nous ne sommes pas fiers de nous quand nous commençons un travail et quand nous n'arrivons pas à le finir. Nous n'avons pas de quoi nous vanter quand les enfants nous font perdre patience, par exemple, ou quand nous n'arrivons pas à résoudre un problème dans notre mariage, dans notre famille, ou quand nous sommes aux prises avec un péché tenace dans notre vie. les échecs nous frustrent. Et nous arrivons à la conclusion déprimante, je suis un faible, je suis un incompétent, je ne suis pas un bon parent, je ne suis pas un bon mari, je ne suis pas une bonne épouse, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas un modèle dans l'Église, etc. etc. Toutes ces litanies que nous entendons qui viennent de notre cœur. Nous n'aimons pas pleurer non plus devant les autres. Nous préférons donner l'image d'une personne qui contrôle toujours tout. Et c'est notre culture hein, qui, d'une façon ou d'une autre, veut ça, nous forme comme ça. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être faibles. Alors, si on en vient à la Bible, on voit que le Seigneur a dirigé l'apôtre Paul de manière à nous faire voir la faiblesse d'une manière différente. Paul dit des choses qui semblent vraiment étranges. Il dit donc, dans le premier texte que j'ai lu, en Galates 4, 13, vous savez que c'est à cause d'une maladie que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et puis, en 2 Corinthiens 12, 10, il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, c'est étrange, parce que c'est en porte-à-faux par rapport à ce qu'on entend. Et c'est pourtant la parole de Dieu. De notre côté, nous voulons être absolument forts, et le Seigneur, lui, veut nous apprendre qu'il y a dans notre vie, de la place pour la faiblesse. On peut même se glorifier de ses faiblesses, être fier de ses faiblesses. Alors, l'apôtre avait une écharpe, dit-il, dans la chair. Le Seigneur lui a mis cette écharpe pour lui apprendre une chose importante. La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. C'est ce que nous allons voir maintenant, au travers des trois points qui sont devant. Alors tout d'abord, pourquoi Paul avait-il besoin d'être faible? L'apôtre Paul était très agacé par une écharpe dans la chair. On y reviendra tout à l'heure. Mais pourquoi mentionne-t-il cette écharpe? Pourquoi le Seigneur lui a-t-il mis cette écharpe dans la chair? Alors, quand il écrit aux Corinthiens, il avait cette écharpe depuis plusieurs années. Ce n'était pas un problème passager. Qui a duré quelque temps, puis qui est parti, tout de suite, au bout d'un certain temps, et c'est fini. Non, non, trois fois, donc ça n'a pas duré deux ou trois semaines, et puis c'est fini. Non, trois fois, Paul a supplié le Seigneur, donc à trois moments de sa vie. Il a supplié ensuite le Seigneur de l'enlever, cette chose. Et Dieu a finalement répondu, non, je ne te l'enlève pas, je n'enlève pas. Et donc c'est un vrai problème qui l'a dérangé longtemps. Ça faisait vraiment partie de sa vie. Et curieusement, Galates 4 et 2 Corinthiens 12 sont les seuls passages dans toutes ces 13 lettres où Paul mentionne ce problème dans sa vie personnelle. Alors on doit reconnaître que Paul n'était pas un douillet. Il a eu froid, on le voit en 1 Corinthiens 11. Vous avez un petit bobo, lisez ces chapitres où il parle de ces 2 Corinthiens 11, voilà, où il parle de tout ce qu'il a souffert pour l'évangile. On voit qu'il n'était pas douillé, hein, il a eu froid, il a eu faim, il a connu toutes sortes de prisons, il a connu des naufrages, hein, il a connu la persécution, etc. On ne peut pas dire qu'il se plaint trop souvent. C'est pas son genre. Et ses lettres n'attirent surtout jamais l'attention sur ses bobos. Hein. Non, Paul, dans son enseignement, attire plutôt l'attention sur la croix. Voilà un bon exemple à suivre. Il nous arrive de parler de notre santé, de notre travail, de notre famille. Et c'est très bien, dans un sens. Car les autres, en particulier nos frères et sœurs dans l'Église, aimeront connaître certaines choses personnelles de nous. Hein. Pour nous encourager, pour nous aider aussi, pour prier tout simplement pour nous selon nos besoins. Nous devrions pourtant éviter de parler de nous sans arrêt. Il y a des personnes qui parlent sans arrêt. Si Dieu est la première place dans ma vie, est-ce que je devrais toujours parler de moi, de mes réussites, de mes problèmes? Notre culture, c'est vrai, est centrée sur le moi, hein. Sur moi, sur mon bonheur, sur mes affaires, sur ma santé. Comme chrétiens, nous devrions porter l'attention, premièrement, sur Dieu. alors, pourquoi Paul parle-t-il ici de son écharpe? Pourquoi éprouve-t-il le besoin d'en parler? Si d'habitude il se concentre sur le Seigneur et sur son évangile, pourquoi parle-t-il ici de lui-même? Ben, nous avons la réponse donc, au verset 7 de Corinthiens 12. Pour que je ne sois pas trop orgueilleux, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, dans cette version, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharpe de la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Là, il répète à deux fois, hein, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Paul veut nous faire savoir une chose, un problème d'orgueil. Et c'est pour cette raison qu'il a une écharpe dans la chair. Alors pourquoi est-il en danger de devenir orgueilleux? Ben, on l'a vu, hein, le verset 7 est affirmatif, à cause de l'excellence de ses révélations. Paul était un homme privilégié. Dieu lui a donné plusieurs révélations importantes. Jésus lui est apparu d'abord sur le chemin de Damas, acte 9. Le Seigneur lui a parlé plusieurs fois dans des visions pour l'encourager. Par exemple, l'encourager d'aller en Macédoine, acte 16, 9 à 10, pour l'encourager d'aller à Corinthe, de rester à Corinthe, malgré les combats, acte 18, 9 à 10, pour aller à Rome aussi, c'est un moment important de sa vie, en acte 23, 11. Donc Paul a eu des visions, des encouragements, des visions importantes. Et Paul nous dit au verset 2 de 2 Corinthiens 12, je connais un homme en Christ qui voici 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e siècle. Cet homme, donc, c'est Paul, une façon de dire. Et c'est lui qui est en cause ici. Il fut enlevé, cet homme, dans le paradis, il entendit des paroles ineffables, inexprimables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Dit le verset 4. Alors Paul est monté au ciel dans la présence de Dieu. Enfin, comment ça s'est fait, peu importe, il le dit. Il ne sait pas lui-même, mais il a entendu des choses inexprimables. Ah, il y a de quoi s'enorgueillir. Il y a de quoi faire un livre, il y a de quoi faire un best-seller, il y a de quoi en parler tout le temps à tout le monde. Hein? Il y a de quoi mettre ça en avant. Hein? Il y a de quoi faire envie. Mais Paul est donc humain, comme vous et moi, en tout cas comme moi. Hein? Et nous sommes si facilement portés à nous penser supérieurs aux autres. L'orgueil nous guette constamment. Et quand le Seigneur nous donne des privilèges, il fait en sorte de nous garder humbles. La plus belle des vertus, c'est l'humilité, c'est la clé de toutes les autres vertus. Et le Seigneur nous empêche de nous enfler d'orgueil. Il nous empêche d'être trop orgueilleux. Il y aura toujours un peu d'orgueil, mais trop orgueilleux, alors là, c'est l'orgueil. C'est un malheur, et ça c'est important de rappeler, c'est un malheur pour quelqu'un d'être abandonné sur la voie où il se perdra petit à petit dans la contemplation de ses privilèges. C'est un malheur. Mais c'est un don, c'est une grâce pour cette personne d'être arrachée à ce piège, même au prix de certaines douleurs, et de garder ainsi ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa communion avec Dieu. Et donc c'est pour cette raison que le Seigneur a utilisé une écharpe dans la chair. Alors Paul devait rester humble et petit, devait garder les deux pieds sur terre. Alors mais pourquoi Paul raconte-t-il tout ça aux Corinthiens à ce moment-là? Alors on avait vu cette épître aux Corinthiens en étude publique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais donc cette église de Corinthe, dans cette église était infiltrée de faux enseignants. Se pensait supérieur et qui méprisait l'apôtre Paul. Et qui avait tendance à dire, regardez ce Paul, c'est un homme bien ordinaire, comment peut-il être un apôtre? Et Paul se défend, il veut avant tout protéger l'évangile qu'il prêche, en se défendant. Ceux qui le dénigrent s'attaquent en réalité à l'évangile qu'il prêche, c'est ça qui est dangereux. Mais Paul veut surtout éviter que les autres soient en admiration devant lui. Alors, est-ce qu'il dit, voyez toutes les révélations que j'ai eues, regardez ma grandeur et mon importance? Non, il ne dit pas ça. Pas du tout. Il dit, si je dois me glorifier de quelque chose, ce sera de mes faiblesses. Et les faux apôtres parlent de leurs exploits, de tout le continu. Et Paul, vrai apôtre, parle lui de ses limites et de ses faiblesses. Alors, quelle était cette faiblesse? Eh bien, c'était une écharpe dans la chair, elle est dit. Alors, on sait ce que c'est une écharpe, ça fait mal, hein. Mais ça ne dit pas grand-chose. Alors, si on s'en tient à notre passage de Galates 4, on pourrait hein, peut-être parler d'une maladie des yeux. Puisqu'il dit, voilà, hein, vous auriez donné vos yeux hein, pour moi. Et à la fin de Galates, au verset 6, chapitre 6, verset 11, il parle aussi, vous voyez en quel gros caractère j'écris. Donc il avait peut-être une ophtalmie purulente, hein, quelque chose de plutôt répugnant. C'est vrai qu'un prédicateur, c'est pas extraordinaire. Alors, vous avez peut-être remarqué au verset 7 que son écharpe dans la chair lui fut donnée. Et en même temps, il est dit que ça vient d'un ange de Satan. Ça fut donné par Dieu. Et en même temps, c'est un ange de Satan. Alors, comment comprendre que l'écharpe soit à la fois l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Satan? Dans notre esprit, c'est soit l'un, soit l'autre. Et dans la Bible, ça peut être l'un et l'autre. Alors, vous vous souvenez de Job, par exemple. Job, Dieu a donné à Satan la permission de frapper Job. Job 1. Et Satan ne s'en est pas privé. Mais c'est Dieu qui a eu le dernier mot de Job. Et Dieu s'est glorifié dans son serviteur Job, qui lui a été fidèle. Satan s'est servi des Sabéens hein, pour passer les serviteurs de Job au fils de l'Esprit. Il s'est servi du feu du ciel pour brûler le bétail. Hein. Et les serviteurs, il s'est servi d'un grand vent pour renverser la maison, la famille de Job. Il s'est servi de la femme de Job pour l'encourager à maudire Dieu. Tout cela avec la permission de Dieu, du Dieu Tout-Puissant qui enquête tout pour le bien de ses enfants. Et c'est pareil pour Joseph. On voit en Genèse 50, verset 20, Joseph dit « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. » Ce qu'ils ont fait, ces frères. Ils en ont fait un esclave. Mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu a fait de Joseph le gouverneur de l'Égypte qui allait sauver son peuple. Et c'est pareil pour la mort de Jésus. C'est à la fois une méchante, la mort de Jésus présentée en Actes 4, 27, 28, comme une méchante conspiration d'hommes méchants, hein, Caïphe, et tous les autres, et Pilate. Hein. Mais c'est arrivé aussi selon la volonté de Dieu. C'est à la fois un grand mal dont sont coupables les responsables et dont nous sommes coupables. Et c'est aussi l'œuvre de Dieu, l'œuvre du salut. C'est le plan de Dieu depuis le commencement, mais cela ne diminue en rien la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués à divers niveaux. Donc toutes ces choses, ces maladies, ces accidents, ces oppressions, cette opposition, ce que Paul peut vivre ne sont pas bonnes. L'écharpe est mauvaise. Et elle peut donc, dit Paul, être attribuée d'une certaine façon à Satan. Mais aucune de ces vilaines choses n'échappe à la souveraineté de Dieu. Dieu laisse à l'adversaire une certaine longueur de corde, on va dire, qui lui permet de toucher à la santé de ses bien-aimés. Mais c'est pour les rendre plus forts. Pour les introduire plus avant dans son intimité. Dieu est souverain, il te commande ce que Satan fait pour détruire. Eh bien, Dieu l'utilise pour bénir, pour sauver, pour sanctifier. Alors, on voit ça dans la vie de Paul. Quel a été le résultat de sa faiblesse? Eh bien, Paul a cherché le réconfort en Dieu, dans sa prière. Il a cherché le réconfort dans la prière. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc c'est normal, quand on a un problème, c'est normal qu'on s'adresse au Seigneur, qu'on se tourne vers lui. Paul sait que Dieu veut le meilleur pour lui. C'est pourquoi il supplie avec ténacité, sans faiblir. Parce que total est sa confiance en celui qui sert avec passion. Il est certain, il en est sûr, Dieu répondra. Alors, premier assaut, rien ne se passe. Il prie, on peut dire qu'il prie un bon moment, hein, moment important de sa vie, et il ne se passe rien. Il ne peut pas dire qu'il est guéri, mais pourtant il n'abandonne pas. Alors, Paul n'est pas fataliste. Il y a des gens, des chrétiens fatalistes. Paul ne dit pas, si Dieu ne m'a pas répondu, c'est qu'il ne veut pas me répondre, et c'est qu'il faut accepter ce que j'ai. Non, si Dieu n'a pas répondu, c'est qu'il faut persévérer. Si Dieu n'a pas dit non, eh bien, il reste. Voilà, s'il n'a pas dit non clairement, eh bien, il y a la possibilité qu'il nous demande de persévérer. Il ne faut pas abandonner la lutte. Il faut continuer à prier. Et c'est ce que Paul fait, il continue. Et donc, à un autre moment, il prie. Il prend le temps de prier. Silence de Dieu. Sans complexe, Paul revient à la charge une troisième fois. Il persévère donc jusqu'à une réponse. A-t-il été exaucé? Non. A-t-il été entendu? Oui. On peut le dire avec assurance. Oui, on peut dire avec assurance oui, car il a reçu une réponse claire, une réponse vraiment ferme. Ce n'est pas la réponse qu'il attendait, mais c'est enfin une réponse précise et claire. L'apôtre, qui n'a rien pu nous dire de ce qu'il avait entendu dans le troisième ciel, dans le paradis, parce que c'était des choses inestimables, est en mesure de reproduire très exactement le contenu de cette réponse de Dieu. Et la voici. Ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. Car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est dans la faiblesse que ma puissance se parachève ou arrive à son but. Donc ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. Il a reçu une réponse. En réponse à ses supplications, plutôt, il a reçu une grâce. Un don bien spécifique. Une puissance qui le rend capable de vivre avec son écharpe, comme avec une amie. Il a reçu quelque chose, une force d'en. Et le résultat est là. Désormais, il ne subit plus son écharpe. Cette écharpe, il ne l'éprouve plus. Dieu en a enlevé le poids. Paul n'en fait plus qu'un. Il est maintenant réconcilié avec cette épreuve. Il est apaisé. Il est satisfait. Il est heureux. À tel point qu'il tire gloire de son infirmité. Cette écharpe est devenue une compagne, un sujet de joie pour lui. À croire que son mal a tout à fait disparu. N'est-ce pas, quelque part, une guérison? Tout cela est bien la preuve qu'il s'est passé quelque chose de profond chez Paul. Et nous voyons là l'œuvre de la puissance, de la présence fortifiante du Seigneur auprès de son peuple, dans la difficulté. Ce n'est pas quelque chose qui agit pour quelques instants. Vous savez, des fois, on a un petit truc comme ça, c'est assez psychologique. Et ça agit, puis c'est parti. Là, on est à nouveau dans les problèmes. Pire qu'avant. Non, ce n'est pas une action de Dieu pour quelques instants, mais c'est une action durable. Pour le restant de ces jours, ça va durer des années et des années, cette action, cette présence fortifiante. Alors, nous avons tous des luttes quotidiennes, mais nous avons des luttes quotidiennes très différentes de l'apôtre Paul, que nous ne sommes pas. Nous n'avons pas les mêmes privilèges, ni les mêmes révélations que Paul en tant qu'apôtre. Nous n'avons pas non plus les mêmes problèmes qu'il a eu, ni les mêmes combats. Nous avons cependant le même ennemi et nous avons le même Seigneur. Et nous avons besoin de nous confier en Dieu. Notre bon Père Céleste, dans la prière. Alors Dieu répond à la prière, mais sa réponse n'est pas toujours celle que nous voulons. Nous ne savons pas espérer. Dieu ne nous enlève pas toujours nos faiblesses. Nos faiblesses, ça peut être nos migraines, ça peut être nos problèmes auditifs, ça peut être nos insomnies, ça peut être nos fatigues, ça peut être nos dépressions, ça peut être nos moqueries. Les moqueries, je veux dire, au travail, ça peut être certains problèmes familiaux. Dieu n'enlève pas tout ça, toujours. Et Paul n'a pas reçu ce qu'il a demandé à cet égard. Et ma grâce te suffit, car ma puissance. sens s'accomplit dans la jeunesse. Voilà quelque chose qui est pour nous aussi. Dans ma jeunesse, je reçois la force du Seigneur. Dans mes combats, la grâce de Dieu me soutient. Chaque fois que le diable essaye de me détruire, le Seigneur me donne la force nécessaire. L'Église du Seigneur subit les attaques du diable, mais le résultat est tout le contraire de ce que le diable avait prévu. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Voilà une vérité importante. La puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Le Seigneur rassemble son Église, protège son Église, dirige son Église. Nos faiblesses ne sont pas un problème pour Dieu. Il accomplit son œuvre à travers, malgré nos faiblesses, et à travers nos faiblesses. C'est là son problème. Il se sert de nos problèmes pour arriver au but qu'il poursuit. Un but qui est toujours bon et parfait. Il fait, il agit ainsi pour se glorifier, lui. Mais par la grâce de Dieu et avec la force du Saint-Esprit, je peux donc améliorer mon mariage. Par la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit, je peux guider cet enfant rebelle vers l'obéissance. Par la grâce de Dieu, avec la force du Saint-Esprit, je peux avoir la sagesse de prendre de bonnes décisions. Je peux remporter la victoire contre un péché tenace. Je peux pardonner la faute de quelqu'un qui m'a blessé profondément. Je peux présenter l'Évangile avec tact à ma famille et dans mon entourage. Tout ça, je peux par la grâce de Dieu. Ma grâce de Dieu. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Voilà ce que chacun peut recevoir de ce que Paul a vécu. Alors je peux penser, je suis faible, je suis un bonheur. Mais le Seigneur, il pense différemment. Le Seigneur utilise précisément ce genre de personne que je suis pour construire son vie. Ils disent des personnes qui ne sont pas arrogantes, qui ne sont pas remplies d'orgueil, des personnes qui sont bien conscientes de leur faiblesse, pour que la puissance de Dieu soit en action dans nos faiblesses. Alors je peux me plaire dans mes faiblesses, comme Paul, non pas parce que c'est plaisant en soi, non, c'est pas plaisant en soi, mais pour la gloire de Dieu, pour le but que Dieu poursuit. C'est la preuve de la défaite de Satan et de la victoire de Jésus-Christ. Les attaques du diable servent à construire, et même les attaques du diable servent à construire le royaume de Dieu. Voilà la victoire du Christ. Alors nous aimons être beaux, nous aimons être forts, nous aimons être en pleine santé, nous aimons être capables et compétents sur tous les plans. Nous voulons être reconnus pour nos succès. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui compte, c'est d'être prêt à reconnaître que la force du Seigneur est rendue parfaite dans nos faiblesses. Pas besoin de nous plaindre tout le temps de nos faiblesses et des attaques du diable. Alors je conclue en disant que nos yeux soient simplement tournés, puissent se tourner avec ce passage et cette expérience de foi, que nos yeux se tournent simplement et résolument vers la puissance. Vers la puissance d'un Dieu souverain, et tout puissant. Il construit aujourd'hui son Église. Il rassemble aujourd'hui son Église par nos faiblesses. À lui seul soit la gloire.